Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire dont peut-être les plus anciens d'entre vous se souviennent encore. Une histoire de 1955, la triple évasion de la prison de Fontevraud, en Maine-et-Loire. Fontevraud, ça vous dit quelque chose? L'abbaye de Fontevraud, qui est devenue aujourd'hui un hôtel de luxe. Eh bien, dans les années 50, c'était une maison centrale. C'était une prison fétide, où s'entassaient les prisonniers les plus dangereux de l'époque. Et donc, je vais vous raconter aujourd'hui l'une des évasions les plus spectaculaires survenues dans cette prison en 1955. Une évasion qui a fait trembler toute une région pendant 8 jours, et je vais le faire grâce au formidable travail qui a été réalisé par un journaliste, éditeur, conteur, je ne sais plus vraiment comment vous présenter, Léandre Boiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous aviez 15 ans, vous, à cette époque, en 55, et des décennies plus tard, vous avez eu envie de remonter tout le fil de cette histoire. Ça donne un très beau livre d'enquête qui s'appelle La Traque, édité par votre propre maison d'édition, La Bouinotte. C'est à partir de votre livre, donc, que j'ai écrit cette histoire d'évasion. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Venez, venez, je vous emmène dans un endroit puant. L'abbaye de Fontevraud, abandonnée par Dieu et transformée depuis Napoléon en prison centrale.
Gauche! Droite! Gauche! Droite!
Ah, je vous avais prévenu, hein. Ici, c'est la fin du monde. Et ça pue, normal. Les gars ne se lavent à l'eau chaude qu'une fois par semaine. À la maison centrale de Fontevraud, on marche à la cloche. La vieille cloche du cloître qui, avant, réveillait les nonnes et qui rythme désormais la vie des détenus. 7h, le prisonnier se lève. 7h12, il passe au lavabo, petite toilette à l'eau glacée. 7h27, le prisonnier descend au réfectoire. 7h45, le prisonnier a le droit de fumer une cigarette. 8h, le prisonnier doit être à son atelier. Tout le monde travaille. À partir de 8h du matin, l'abbaye devient une grande usine. Venez, venez les voir travailler. Voici la filature. Les ballots de laine arrivent par la gare de Varennes-sur-Loire. Les prisonniers les lavent, les cardent, les tissent. Et ils en font des couvertures qui grattent, pour la pénitentiaire et pour l'armée. Et là, ils font des chaises. Et puis là, c'est l'atelier de confection, où l'on fabrique des chemisettes et des shorts. Il y a aussi une menuiserie là-bas, une forge, une buanderie et une ferme. Tout le monde travaille. Ils sont payés pour ça. Mais évidemment, ils ne peuvent garder que la moitié. Le reste va au remboursement des frais de justice et à leur pécule. Vous avez remarqué? Ils ne parlent pas. Ils n'ont pas le droit. Le seul moment où ils ont le droit de parler, c'est le midi au réfectoire. Et encore, pas trop fort. Qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette? Bon, en général, ça vient de la ferme, de la soupe aux légumes et une fois par semaine, quelques fois deux, de la viande. Vous avez remarqué le galon noir sur la veste de certains détenus? Ça, c'est la récompense. Ceux qui se tiennent bien pendant un an ont droit à un galon. Et au bout de 2 ans, à 2 galons. Ça, c'est le nirvana. Avec 2 galons, on a le droit de cantiner et surtout le droit d'accéder au parloir. Le droit de voir ses proches, sa femme, ses enfants. Pas de les toucher, hein, ni de les embrasser, il faut pas exagérer. Au parloir, les détenus sont séparés de leur famille par un grand couloir grillagé. Le soir venu, et jusqu'au lendemain matin, les détenus sont enfermés dans de grands dortoirs. Sauf les homosexuels. Notez ça. Eux, ils ont droit à ce qu'on appelle des cages à poules. Des cages en grillage, qui leur évitent de se faire maltraiter par les autres. Les tuberculeux aussi sont mis à l'écart. À l'infirmerie. Et toutes les semaines, un ou deux finissent au cimetière tout proche. Voilà. Je voulais vous planter le décor pour que vous compreniez bien pourquoi dans ces années-là, tant de détenus ne rêvaient qu'à une seule chose. S'évader. « Le 15 juin 1955, la sirène de la centrale se déclenche à 4h30 de l'après-midi. Branle-bas de combat général. Une évasion vient d'avoir lieu. Ça se passe dans l'atelier de tissage, où travaillent ce jour-là 8 prisonniers sous la surveillance de 2 gardiens. Il fait une chaleur de chien. Soudain, 3 détenus se jettent sur les gardiens. 3 types qui s'appellent Decker, Merlin et Damen. Ça se passe en un éclair. Ils assomment le premier gardien avec un morceau de fer et du coup le second...
C'est bon. Je ferai rien. Déshabille-toi.
Le gardien se déshabille, il le ligote, il le bâillonne et il déshabille ensuite celui qu'ils viennent d'assommer. Il le ficelle à son tour comme un rôti. Decker commence à enfiler l'un des uniformes. À ce moment-là, arrive le gardien-chef. En 2 coups de cuillère à peau, le chef est déshabillé, saucissonné et bâillonné à son tour. Là-dessus, arrive le sous-directeur. Par hasard, il entre dans l'atelier. Il avance dans l'allée centrale. Il balaye la pièce du regard. Et il fait demi-tour. Il ne s'est aperçu de rien. Ouf! Vous avez compris leur plan. Ils ont les clés, ils vont se déguiser en gardien et ils vont se faire la malle. Sauf qu'il y a un blême. L'uniforme du gardien-chef est beaucoup trop petit. Damen n'arrive pas à l'enfiler. Tant pis. Ils joueront le rôle de 2 gardiens qui trimballent un détenu. Avant de sortir, ils vont au magasin. Ils prennent 2 gros rouleaux de lanières de cuir. Et avant de quitter l'atelier, Damen enfonce une cheville de bois à coups de marteau dans la serrure. Et c'est parti. Ils enfilent les couloirs, ils sortent du bâtiment, ils franchissent les 2 chemins de ronde, la casquette de gardien bien enfoncée sur la tête, et ils arrivent au pied d'un mirador perché sur le mur d'enceinte. Ils grimpent jusqu'au mirador par un escalier de fer. Le surveillant dans la guérite les voit arriver, mais il ne se méfie pas.
Le chef te demande, vieux. Donne-moi donc ton mousqueton que je te remplace.
Decker attrape le mousqueton. À partir de maintenant, ils sont armés. Ensuite, ils ligotent le gardien. Ils attrapent les rouleaux de lanières de cuir, Damen les déroule, il fait un nœud au montant du mirador, et hop, il balance la lanière par-dessus le mur d'enceinte. Par ici la descente. Sauf qu'en bas, c'est trop court, il manque 3 mètres.
On s'en fout, j'y vais.
C'est Decker qui passe le premier. Il attaque la descente, arrivé en bas, il lâche, il se réceptionne par un roulé-boulet et de 1.
C'est bon. À toi, Merlin.
Merlin attaque la descente à son tour. Tout va bien. Les voilà tous les 2 en bas du mur.
Damen! Allez, c'est à toi, vas-y!
Damen se lance à son tour, sauf qu'il lui manque des doigts à Damen. Il a été amputé, alors à un moment il lâche, trop tôt, et crac! Quand il touche le sol, les 2 autres entendent clairement sa jambe droite qui se casse en 2, et ils voient son pantalon qui se couvre de sang.
Foutez le camp, les gars! C'est foutu pour moi! T'inquiète pas, on viendra te chercher. Non! Foutez-moi un coup de fusil et partez!
Et donc Decker et Merlin s'enfuient seuls en direction du cimetière. Ils arrivent à la ferme du Lançon. Ils tombent sur la fermière. Avec leurs uniformes de gardien, elle ne se méfie pas en les voyant approcher.
Bonjour madame. Bonjour. Vous n'auriez pas une moto à nous prêter? Une moto? On n'a pas ça. Pourquoi faire? C'est pour attraper des évadés. Et un vélo? Vous n'auriez pas un vélo non plus?
Elle n'en a pas non plus. Et donc, il tourne les talons et il s'enfonce dans le bois. C'est à ce moment-là que la sirène se déclenche. Et là, il commence à sortir des gardiens armés de mousquetons de tous les coins de la centrale. Sauf qu'ils arrivent à l'entrée du bois et ils s'arrêtent net.
On va pas plus loin. Ils sont armés. Le bois est trop touffu. On les prendra plus tard.
Le directeur de la centrale, bien sûr, prévient immédiatement les gendarmes de Fontevraud.
Chef Dubreuil ! Meuvray à l'appareil, le directeur de la centrale. Nous avons 3 évadés. Prévenez votre hiérarchie, hein.
Entendu, monsieur le directeur.
Le chef Dubreuil prévient tout de suite le capitaine Picard de la section de Saumur, lequel se met en route sur le champ. Il arrive assez vite, avec 3 hommes et un chien policier. Le chien trouve tout de suite une trace à l'entrée du bois. Ils la suivent, et puis à un moment donné, ils la perdent. Là-dessus arrive le sous-préfet, qui décide de mobiliser l'armée.
Le 1er régiment de dragons, capitaine Robic, le sous-préfet à l'appareil. Nous avons une évasion à la centrale. Je vous réquisitionne, envoyez-moi des hommes. De combien d'hommes pouvez-vous disposer ?
Une cinquantaine, monsieur le sous-préfet.
50 ? Ça ira.
Les gendarmes de Tours, de Chinon, de Châtellerault sont aussi mobilisés. Avec un tel dispositif, on ne voit pas comment deux hommes à pied peuvent disparaître. En attendant, laissez-moi vous donner des nouvelles de Damen. Vous savez le troisième, celui qui s'est cassé la jambe. Alors qu'il est, il est toujours au pied du mur d'enceinte, figurez-vous. Depuis que la sirène a retenti, il a vu défiler tout un tas de curieux du village, comme à la foire. Il a même vu un journaliste, oui monsieur, qui a eu le temps de l'interviewer et même de prendre une photo. Un joli scoop, la photo fera demain la une de tous les journaux. Et pendant ce temps-là, ses copains Decker et Merlin sont déjà loin. Le lendemain, la triple évasion fait la une de tous les journaux, et notamment du journal local, le Courrier de l'Ouest. Les gens du coin découvrent donc le nom des évadés. Roger Decker et Gustave Merlin, deux condamnés à perpète. Mais ce qui les fait sursauter, c'est le profil du troisième, celui qui s'est cassé la jambe.
Oh, dis donc ! Écoute ce qu'ils écrivent dans le journal. Émile Demen, 47 ans, boucher à Nancy. Celui-ci s'était fait une curieuse spécialité pendant la guerre. Il tuait des Allemands, les dépeçait et se servait de leur chair pour confectionner des saucissons. T'as vu ça ? Il les revendait à ses concitoyens affamés. Il a été condamné deux fois aux travaux forcés à perpétuité. Ben dis donc, on n'a pas intérêt à le croiser celui-là.
Quelle histoire ! Quelle histoire ! Je peux vous dire que ça fait causer dans les chaumières, tout ça. Sauf que c'est faux. C'est archi-faux. Et de un, le type ne s'appelle pas Émile Demen, mais Georges Damen. Et de deux, il n'a jamais été boucher. Et il n'a jamais fabriqué des saucissons d'Allemand. C'est une invention. D'où le journaliste du Courrier de l'Ouest sort-il cette info moisie ? Eh bien, il semble qu'il la tienne du directeur de la prison, figurez-vous, qui aurait tenté, par cette histoire, de détourner l'attention. Disons, tant qu'on parle des saucissons d'Allemand, on ne parle pas de sa prison passoire. Georges Damen, en vérité, a été condamné en 1946 pour un meurtre commis pendant une bagarre. Et c'est dans cette bagarre qu'il a perdu quelques-uns de ses doigts qui lui ont tant manqué pour descendre le mur d'enceinte. Ça n'est pas sa première évasion de Fontevraud. Il a déjà tenté le coup il y a quelques années avec Decker et déjà avec Merlin. Mais il s'était fait balancer par un autre détenu qui avait fini par le payer cher. Damen lui avait tranché le nez et fendu la bouche jusqu'aux oreilles. Donc il ne fait pas dans le saucisson allemand, mais ça n'est pas un tendre. Quant aux deux autres, ceux qui ont réussi leur évasion, Roger Decker et Gustave Merlin, ce sont des gangsters, ce sont des braqueurs. Et quand je dis braqueurs, ce sont de gros braqueurs. Decker a plus de 40 braquages à son actif, avec des stars de l'époque, Émile Buisson, René Lacanne. Deux gros bras donc du milieu de l'après-guerre qui sont maintenant dans la nature. Alors où sont-ils, ces deux-là ? Les gendarmes ont renoncé à les suivre dans le bois. Trop compliqué. Ils ont établi un périmètre assez large, installé des barrages, et ils attendent. Une journée passe, une nuit, rien ne bouge. Le surlendemain de l'évasion, deux paysannes qui gardent leurs moutons, à quoi ? 5 kilomètres de la prison, les voient surgir d'un bois. Elles les reconnaissent tout de suite.
Regarde ! C'est les évadés !
Elles rentrent chez elles en courant. Elles vont chez un voisin qui a le téléphone, lequel prévient la gendarmerie. Les gendarmes arrivent tout de suite. Ils trouvent des empreintes de chaussures à l'entrée du bois. Ils les suivent. Et puis finalement, ils les perdent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont toujours là, dans le coin. et donc les autorités envoient une voiture avec un haut-parleur pour prévenir les habitants.
Avis à la population. Les deux bandits évadés de Fontevraud ont été aperçus dans le coin. Évitez d'envoyer vos enfants au champ. Enfermez-vous le soir. N'ouvrez à personne et signalez toute présence suspecte.
Ce soir-là, les fermiers du coin ne ferment pas l'œil de la nuit. Ils restent éveillés avec leurs fusils chargés, au cas où. Le lendemain, entre Saumur et Chinon, toute la région est en état de siège. On croise des voitures de gendarmes, des motos de gendarmes, des voitures particulières aussi. Une vingtaine de volontaires armés de fusils de chasse se sont proposés. On les a intégrés au dispositif. Et vers 11h, on signale les fugitifs près d'une ferme. Mais les gendarmes arrivent trop tard. Un peu plus tard, un fermier les voit dans son jardin en train de manger des fraises et des cerises. Mais là encore, le temps de prévenir, ils sont loin. Un peu plus tard, à la tombée de la nuit, on les aperçoit à nouveau accusés. Mais le temps de prévenir, ils ont disparu. La nuit tombe, il se met à pleuvoir. Les gendarmes sont épuisés par deux jours de traque. Et soudain, dans les phares d'une voiture, deux silhouettes qui traversent.
Ce sont eux !
Ils se lancent à leur poursuite, mais à la faveur de la nuit, ils les perdent à nouveau. Mais ça se confirme. Ils sont toujours dans le coin de la centrale. On les aura demain. On les aura demain. Mais le lendemain, cinquième jour de cavale, rien. Et le surlendemain, le lundi, rien non plus. Pas un signe, pas une trace. Jusqu'au soir. Vers 11h30, un plombier appelle les gendarmes de Chinon.
Allô ? Oui, bonjour. C'est pour vous signaler. On m'a volé une camionnette. Une Simca 8. Au cas où ça aurait un rapport avec les évadés, vous voyez ?
On retrouve la camionnette le lendemain, accidentée, encastrée dans un arbre. Et dans la voiture, un mouchoir avec une initiale, G. C'est le mouchoir de l'un des surveillants à qui ils ont volé l'uniforme. Donc c'était eux. Demain, ça fera une semaine que Decker et Merlin sont en cavale. Dans une ferme, la Poitevinière, près du village de Pussigny, la fermière est dans la cour avec sa fille. Elle est en train de compter une portée de canards. Et elle voit arriver un homme.
Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis tombé en panne avec mon camion. On a coulé une bielle. Les autres sont partis chercher un mécanicien. Et je me suis dit que j'allais m'occuper du ravitaillement. Vous n'auriez pas quelque chose à nous vendre? Du pain, des œufs, du fromage?
Et là, le type sort un bifton de 1000 francs de sa poche.
Je vais voir ce que je peux faire.
La fermière va chercher un quignon de pain rassis et une douzaine d'œufs.
Merci beaucoup, hein.
Et elle voit l'homme s'en aller. Quelques heures plus tard, en début d'après-midi, les gendarmes se présentent à la ferme avec des photos. La fermière regarde les photos.
Oh mon Dieu! C'est celui-là que j'ai vu ce matin. J'ai vendu du pain et des œufs.
C'était Roger Decker. La nuit tombe. Ce soir-là, plus de 7 jours après l'évasion, 300 hommes sont sur le terrain. Malheureusement, c'est une nuit sans lune. On n'y voit pas à un mètre. Vers 2 heures du matin, deux gendarmes en faction près d'un pont entendent des pas et deux personnes qui discutent. L'un des gendarmes braque sa torche.
« Halte là ! Haut les mains !»
Et là, les gendarmes ripostent tout de suite et ils les entendent s'enfuir. Une heure plus tard, a lieu un deuxième accrochage à la gare de Port des Piles. Deux gendarmes sont planqués dans un wagon. Ils entendent deux hommes s'approcher.
« Halte là ! »
À ce moment-là, les gars tirent. Les gendarmes veulent riposter, mais leur mitraillette s'enraye. Et à nouveau, Decker et Merlin s'enfuient. Ils leur ont encore échappé. La guigne ! « Le lendemain, nouvelle alerte. Vers 8 heures du soir, un paysan en vélo tombe sur deux hommes tranquillement couchés en travers d'un chemin. Il les salue.
Bonjour, messieurs. Bonjour, patron. On fait la sieste. On se repose un peu. Vous avez bien raison, les gars. Avec le temps qu'il fait, avec cette chaleur.
Et là, le paysan fait 2 mètres sur son vélo. Et soudain, il se dit, nom de Dieu, ce sont eux. Alors il pédale comme un dératé jusqu'à chez lui. Il appelle les gendarmes.
Je les ai vus. Ah ben oui, je les ai vus dans le chemin, près dans le champ. Ils faisaient la sieste, il y a moins d'une heure.
À l'autre bout du fil, le gendarme chipote, figurez-vous.
Vous savez, on reçoit beaucoup d'appels. On va voir ça, hein? On va voir ça.
Huit jours après l'évasion, les gendarmes sont ratatinés. Faut les comprendre. Ils viennent d'enquiller des nuits blanches et depuis une semaine, ils ont reçu des dizaines et des dizaines d'appels. Mais bon, ils y vont. Ils attrapent leur P-38, leur chargeur et ils y vont. À bord de leur Juve 4. Ils arrivent là où le paysan les a vus faire sa sieste.
Regarde! Regarde, ils sont là!
Au loin, ils voient Decker et Merlin perchés sur un cerisier en train de se goinfrer. Les deux autres ont entendu la voiture, bien sûr, et ils se mettent à descendre de l'arbre.
Arrêtez-vous! Rendez-vous, les gars, vous êtes pris!
On n'est pas assez. Il nous faut du renfort.
Alors l'un des gendarmes repart en voiture vers la brigade chercher du renfort. Pendant ce temps-là, les deux autres attendent tapis dans les fourrés. À un moment, ils voient les épis de blé qui bougent. Et puis un homme qui se lève, il est armé, un coup de feu part. Il riposte. Et là arrivent 2 voitures de gendarmes, toutes portières ouvertes, et une grêle de balles s'abat sur le champ de blé.
Halte au feu !
Là, il lâche un chien qui se met à courir sans aboyer.
S'il n'est pas agressif, c'est qu'ils sont hors d'état de nuire. Allez, venez, on y va.
Les gendarmes avancent dans le champ. Ils tombent sur un cadavre, Merlin, et un peu plus loin, sur un blessé, Decker. Il a reçu une balle dans la tête. 8 jours après leur évasion, ils les ont eus. Ils chargent Decker à l'arrière de la Juve 4. Ils l'emmènent à l'hôpital, sachant qu'avec une balle dans la tête, Decker n'a aucune chance. Et le lendemain, voilà ce que les gens lisent dans le journal La Nouvelle République. Tragique épilogue de la chasse aux évadés de Fontevraud, Merlin a été abattu près de Sainte-Maure et Decker, grièvement blessé, a succombé à l'hôpital 1 heure plus tard. Et je vous le dis, il n'y a pas eu grand monde pour s'émouvoir que les 2 larrons aient été abattus comme des chiens.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.